Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Le maître dit : À 15 ans, je résolus d'apprendre. À 30 ans, je m'affermis dans la voie. À 40 ans, je n'éprouvais plus aucun doute. À 50 ans, je connaissais les décrets du ciel. À 60 ans, j'avais un discernement parfait. À 70 ans, j'agissais en toute liberté, sans pour autant transgresser aucune règle.
Je traînais comme tout le monde, n'ayant pas d'argent dans les librairies, je lisais au hasard 15 pages d'un bouquin, puis j'allais dans la librairie d'à côté en lire un bouquin. Puis un jour, je suis tombé sur un certain Soulier de Moran, qui avait écrit une biographie de Confucius et une traduction, une adaptation de ses entretiens familiers. Et alors là, moi qui me cherchais une morale, mais je me suis dit, c'est ça la mienne.
Une vie, une œuvre. Confucius par Antoine Perrot.
Confucius, l'instituteur de l'Empire du Milieu, 551-479 avant l'ère chrétienne.
À cette époque, la Chine avait déjà une histoire connue d'au moins 2000 ans. Ça, c'est une première donnée très importante. Parce que Confucius prend comme un de ses points de référence les plus signifiants, les plus importants, l'histoire du passé qu'il connaissait très bien. Confucius a vécu sous la dynastie Zhou, qui a été instaurée vers 1123 avant Jésus-Christ. Donc même cette dynastie dans laquelle il vivait avait déjà un demi-millénaire à l'époque où il a vécu.
Charles Leblanc.
Et cette très grande dynastie, qui a donné à la Chine plusieurs de ses institutions permanentes, qui durent encore, était en plein déclin à l'époque de Confucius. Définissons brièvement ce qu'était cette dynastie. Dynastie voulait dire qu'une même famille se transmettait le pouvoir de génération en génération, et le royaume sur lequel régnait cette famille était composé d'un nombre assez considérable, une vingtaine de principautés. Donc les parents, les cousins, les oncles de la famille royale obtenaient en fief des territoires très considérables qui correspondent à peu près à des provinces chinoises actuellement. Et ils exerçaient un pouvoir presque total sur ces principautés. Mais durant la première partie de cette dynastie, toutes ces principautés reconnaissaient ce qu'on appelait l'hégémonie du royaume de Zhou, qui était primus inter pares, pour ainsi dire.
Voilà, dans la Chine de ce 6e, 5e siècle avant notre ère, une espèce de géopolitique, c'est-à-dire que finalement les structures géographiques reproduisent un petit peu les structures de parenté aristocratique.
An Cheng.
C'est-à-dire que vous avez une myriade de vassalités plus ou moins grandes et qui sont d'autant plus proches géographiquement du domaine royal des Zhou, qui se situe dans le bassin moyen du fleuve Jaune, qu'elles sont plus proches du point de vue de la parenté de cette maison royale. En voyant une carte, ça apparaît de façon très, très nette. Et toujours en voyant cette carte, et en l'imaginant tout du moins, on peut voir que justement les vassalités les plus proches de la maison des Zhou sont en général des vassalités assez petites. Hein, et ce sont elles qu'on a d'abord nommé les pays du milieu, hein, c'est-à-dire les vassalités du milieu, en chinois Zhongguo, hein, et c'est ce terme qui est resté pour désigner la Chine en chinois. Hein. Alors évidemment, du sens premier de vassalité au pluriel du milieu, on est passé au sens de l'empire du milieu, du pays du milieu, hein, quand la Chine a été unifiée. Mais en fait, disons que cette première désignation de vassalité du milieu ne comportait aucun sinocentrisme à cette époque. Hein, c'était... alors, ces petites vassalités du centre tendent un petit peu à s'opposer à une ceinture de vassalité plus grande, mais en même temps plus aguerrie, puisqu'elles ont constamment maille à partir avec justement les populations considérées comme barbares, enfin par les Chinois de l'époque. Donc des vassalités à la fois plus grandes territorialement et plus aguerries militairement, et qui vont finir finalement par assurer à tour de rôle l'hégémonie, hein, sur les autres vassalités. Et le dernier hégémon en date, c'est justement le pays de Qin, qui va unifier la Chine en 221 avant notre ère.
Et donc, l'importance du message de Confucius, c'est d'avoir été parfaitement conscient du déclin politique et moral de cette grande dynastie Zhou et d'avoir voulu proposer un message de réforme, de renaissance, de redonner à toute cette société un ensemble de préceptes, de principes sociopolitiques et moraux qui pouvait redonner vie à toute cette société. Mais en faisant cela, il a proposé un message, en fait, qui dépassait tous les messages antérieurs proposés par les sages chinois. Alors, si on cherche les points de référence historiques de Confucius, il se réfère d'une façon plus immédiate au fondateur de cette grande dynastie Zhou, dont il veut préserver les institutions, tout en les rénovant et en les ravigorant. D'une façon plus lointaine, il se réfère à des empereurs mythiques, hein, qui ont vécu à une époque immémoriale, dont lui-même ne sait pas exactement quel était ce moment, qu'on appelle Yao, Shun et Yu. On dit que Yu a fondé la première dynastie historique chinoise, qui est encore très mal connue, qui s'appelle la dynastie Xia. Et Confucius semblait connaître plusieurs aspects de cette dynastie, parce qu'il dit quelles étaient les formes de sacrifices, les couleurs des vêtements, les époques des sacrifices qui étaient accomplis sous cette dynastie. On peut penser que cette référence historique de Confucius était la manière la plus convaincante et la plus signifiante pour lui de proposer un message qui, au fond, était surtout ce qu'on peut appeler philosophique et éthique. Il lui a donné une forme historique parce que c'était le langage qui était le mieux compris et le plus convaincant à l'époque. Peut-être à une autre époque, il aurait employé l'essai ou le roman ou d'autres modèles.
Confucius, c'est la latinisation du chinois Kong Fuzi, qui veut dire le maître Kong. Et cette latinisation a été opérée par les jésuites, enfin au moment de leur pénétration en Chine, surtout à partir des XVIIe et XVIIIe siècles. En fait, les Chinois eux-mêmes désignent Confucius soit par son nom personnel, qui est Qiu, soit par son appellation qui est Zhongni. Les renseignements biographiques, ou du moins leur plus grande partie, proviennent en fait d'un ouvrage historique qui a été composé 5 siècles après Confucius, hein, au 1er siècle avant notre ère. Il s'agit du fameux Shi Ji, les annales historiques de Sima Qian. Alors, on peut attribuer les dates traditionnelles de Confucius à 551 à 479. C'est-à-dire qu'il a donc vécu à cheval entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère, ce qui en fait un contemporain plus ou moins du Bouddha en Inde, du Bouddha Gautama, et des présocratiques en Grèce. Alors, si ces dates qui sont effectivement plus liturgiques qu'historiques ont quelques validités, Confucius aurait vécu à peu près 72 ans. Il est né et il a vécu en grande partie dans la vassalité de Lu, qui est située dans la province actuelle du Shandong, qui est cette péninsule à l'est de la Chine. Ses ancêtres auraient été d'extraction princière, puisque en fait ils auraient été descendants de l'ancienne dynastie des Shang. Mais son arrière-grand-père, lorsqu'il est venu vivre à Lu, était déjà assez désargenté. Et en ce sens, on peut déjà noter que Confucius est assez représentatif d'une certaine catégorie sociale, un petit peu intermédiaire entre l'aristocratie féodale et les couches populaires, qui va être une catégorie montante tout au long de la Chine immédiatement pré-impériale, c'est-à-dire en fait pratiquement du 6e jusqu'au 3e siècle avant notre ère. Alors, cette Chine des royaumes combattants a produit énormément de penseurs qui, la plupart du temps, relèvent de cette catégorie des Shi, comme on les appelle.
Pas très riche, donc, et une vie pas toujours très heureuse. Orphelin de père très jeune, Confucius aurait ensuite perdu un fils prématurément. Les débuts de Maître Kong sont actifs et engagés. Une carrière administrative est d'abord subalterne. Il est préposé aux greniers à grains, puis responsable de la gestion des terres publiques. La légende veut qu'à 50 ans, il se soit frotté au ministère de la Justice, toujours au pays de Lu. Il aurait à ce titre été victime d'une cabale montée contre lui par la vassalité voisine et ennemie de Qi. Le voilà obligé de s'exiler. 12 ans de voyage et d'errance dans les principautés de la Chine d'alors, à la recherche d'un souverain qui lui prêtât une oreille plus attentive qu'à Lu. Peine perdue. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il profita de ses tribulations pour affiner l'esprit de son enseignement et devenir le grand pédagogue.
Alors, lors de ses voyages, Confucius est accompagné de certains de ses disciples et rencontre parfois de grandes difficultés matérielles. Les entretiens rapportent même qu'il leur arrive de ne plus avoir assez à manger. Hein. Par exemple, ils sont à court de vivres et à ce moment-là, les disciples commencent à douter un petit peu de de la bonne cause. Hein. Et vont chercher le maître furieux, enfin en leur disant, mais enfin, comment ça se fait que des gentilshommes comme nous n'aient même plus de quoi manger, enfin bon. Et Confucius leur dit, un gentilhomme se préoccupe avant tout de rester dans la voie et ne se préoccupe pas d'être bien nourri ou bien habillé. Hein. Donc à la suite de ce périple d'une douzaine d'années, Confucius, déjà âgé, revient à Lu et y passe les dernières années de sa vie, apparemment à enseigner à ses disciples. Alors le nombre de ses disciples varie énormément, enfin d'un témoignage à l'autre. Hein, on passe des 72 disciples traditionnels, enfin ceux qui sont mentionnés dans le Shi Ji, à 3000. Enfin, disons qu'il y a une certaine inflation sur le nombre des disciples. Et c'est apparemment aussi à ce moment-là que on pense que Confucius a, sinon composé, du moins retravaillé les textes qui ont été par la suite connus comme les classiques confucéens, les textes canoniques confucéens, qu'on décompte au nombre de cinq en général. Il y a d'abord le livre des odes, hein, le Shijing, le livre des documents, hein, le Shujing, hein, le fameux livre des mutations qui commence à être très très connu en Occident, le Yi Jing. Ensuite, vous avez un texte purement historique, puisqu'il s'agit des annales du pays de Lu, qu'on appelle en chinois le Chunqiu, le livre des printemps et automnes. Et puis, un recueil sur les rituels, hein, qui est beaucoup plus tardif, qu'on appelle le Li. Il est question dans les entretiens aussi du livre de la musique. Mais en fait, ce livre de la musique, ce Yueqing, est très intimement associé au livre des odes. Hein, parce que les odes, en fait, étaient souvent chantées, ou psalmodiées en tout cas. Alors, bien sûr, la tradition veut que ces textes soient plus ou moins de la main de Confucius, mais je crois que depuis déjà très longtemps, on a mis en doute cette tradition, puisque Confucius s'est sans doute servi de ces textes dans son enseignement, et par le même coup, justement, a dû les remanier dans une certaine mesure, mais on ne peut pas dire que ces textes soient véritablement de sa main. Mais ce qui reste vrai quand même, c'est que ces textes, remaniés soit par Confucius, soit par l'école confucéenne par la suite, portent véritablement la griffe confucéenne, hein, c'est-à-dire ont été réinterprétés dans une lumière, essentiellement éthique, hein, et moralisante.
Le texte le moins indigne de foi qui nous soit parvenu, c'est le Lunyu, en français, les entretiens ou les entretiens familiers. Il s'agit d'une compilation produite longtemps après la mort du vieux maître par les disciples de ses disciples. 20 chapitres, chacun composé de versets, si l'on peut dire, souvent hétéroclites. Leur caractère concis et ramassé ne nous donne à chaque fois qu'une synthèse de la pensée de Confucius, la conclusion d'un raisonnement. Les entretiens apparaissent donc comme une suite de courts dialogues entre Confucius et ses disciples, et surtout de sentences, débutant par la formule sacramentelle « le maître dit ». Cette suite d'apophtegmes donne parfois l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, de l'avis même des spécialistes les mieux disposés à l'égard du philosophe. Néanmoins, ces maximes, plus ou moins apocryphes donc, constituent le meilleur témoignage sur Maître Kong et sa pensée.
Quel est le Confucius qui transparaît, disons, dans ses entretiens, si fragmentaire qu'il soit? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas du tout l'image du grand saint, du grand sage, qu'a fait de lui, par la suite, la géographie officielle, au moment où, après l'instauration de l'Empire centralisé, Confucius est devenu l'objet d'un culte d'État. Mais, en fait, c'est d'abord un homme, hein, dans son entité, qui apparaît dans ce livre. Alors, c'est un homme avec même certains traits de caractère, certaines caractéristiques de tempérament qui apparaissent. En particulier, Tous les Chinois connaissent le goût de Confucius pour la musique. Hein, et tout le monde connaît justement cette anecdote dans les entretiens où Confucius, après avoir entendu une musique rituelle qui évoquait la passation de pouvoir entre deux grands sages de l'Antiquité, a complètement oublié le goût de la viande pendant 3 mois. À travers ce goût pour la musique, on voit déjà que Confucius était un homme qui aimait l'équilibre et l'harmonie.
Le maître dit : l'homme de bien converse dans l'harmonie sans s'abaisser au compromis. L'homme de peu commerce dans le compromis sans parvenir à l'harmonie. Le maître dit : nature qui l'emporte sur culture est fruste. Culture qui l'emporte sur nature est pédante. Seule leur combinaison harmonieuse donne l'homme de bien.
Mais ça n'empêche pas qu'il laissa parfois libre cours à des sentiments tout à fait humains, par exemple de chagrin, de très grand deuil. Confucius a pleuré vraiment tout ce qu'il savait lors de la mort de son disciple préféré, ou même d'indignation. Confucius n'est pas à l'abri de certains mouvements d'humeur, en particulier devant justement certains événements de l'actualité de l'époque.
Fan Che demande en quoi consiste la sagesse.
Le maître répond : c'est rendre aux hommes leur dû en toute justice et honorer esprits et démons tout en les tenant à distance.
Et le jeûne ?
C'est s'attaquer d'abord au plus difficile avant de penser à la récolte.
Fan Che, qu'est-ce que le jeûne ?
Le maître, c'est aimer les hommes.
Fan Che, et la sagesse ?
Le maître, c'est connaître les hommes. Voyant Fan Che perplexe, c'est savoir choisir les hommes droits et les placer au-dessus des hommes pernicieux afin que ces derniers s'en trouvent redressés.
Fan Che, qu'est-ce qu'un homme de jeûne ?
Le maître, courtois et posé dans la vie privée, diligent et sérieux dans la vie active, loyal dans ses relations humaines, tel il est et tel il restera, dût-il se rendre chez les barbares de l'Est et du Nord.
Dans ces entretiens, la question boomerang, si j'ose dire, qui revient continuellement sur le tapis, il y a un des disciples qui revient par 3 fois à la charge. Mm-hmm. C'est une question touchant ce qui apparaît comme la clé de voûte de la philosophie du vieux maître, c'est la vertu de jeûne. Mm-hmm. Alors je voudrais d'abord dire qu'il n'y répond pas toujours de la même façon. Et 2500 ans après, je voudrais moi aussi revenir à charge et vous demander, Han Cheng, si vous pouviez enfin nous dire ce que c'est que le jeûne. D'abord, peut-être, quelle est la meilleure traduction, enfin.
Oui. Cette notion de jeûne, effectivement, c'est le cœur même de l'enseignement de Confucius. Confucius a essentiellement proposé un idéal humain. Et alors justement, le jeûne, c'est vraiment l'idéal d'humanité avec un grand H. Et d'ailleurs, c'est la plupart du temps la traduction qu'on en a proposée. C'est la vertu d'humanité. Mais avec tout ce que ça comporte de meilleur, d'idéal, si vous voulez. C'est vraiment l'homme dans ce qu'il a de meilleur. Confucius, justement, lui-même ne se risque jamais à en donner une définition. D'ailleurs, il est dit très souvent dans les entretiens que Confucius n'était pas l'homme des affirmations catégoriques. Et je crois que le processus de la définition est très très loin de la pensée chinoise. Ça, je crois que c'est une autre constante de la pensée chinoise qu'on peut signaler. C'est-à-dire que les penseurs chinois n'aiment pas donner des définitions systématiques de leurs idées. Ce qui ne veut pas dire que leurs idées soient floues. Surtout en ce qui concerne Confucius, je crois qu'il se faisait une haute idée et une idée très, très claire du jeûne. Mais justement, il se refuse à en donner des définitions.
Jeûner, la vertu d'humanité, c'est l'homme en quelque sorte, quand elle est accomplie parfaitement. Seulement, si je me rappelle les cours de mon bon maître Granet, il y a trois sortes de wen. Il y a un ngan wen, qui est le wen, ngan ça veut dire la paix, la sérénité intérieure.
Pétiamble.
C'est celui de l'homme qui est un être accompli, en qui s'accomplit la perfection humaine, pour ainsi dire par nature, sans qu'il ait d'effort à le faire. Cela, c'est très rare. Il y a d'autre part le wen, qui n'est que l'obéissance passive, disons, au précepte, eh bien disons, du confucianisme. Cela, ça vaut mieux que l'immoralité, mais ce n'est pas très remarquable, ni très digne d'encouragement. Il y a une troisième vertu de Wen, qui est le Wen que l'on obtient par une culture universelle et intensive. Et je me suis dit quelquefois, quand j'étais jeune confucéen, tu n'es pas par tempérament un Ngan Wen, tu n'es pas un pur, tu ne seras jamais un homme qui obéira, car l'un des préceptes du confucianisme, c'est précisément de ne pas obéir et de prendre son cercueil sous son bras quand on est un wen, quand on pratique la vertu de wen, pour aller dire au prince qu'il se trompe quand le prince se trompe. Mais je me disais que peut-être, en essayant d'acquérir sur toutes les civilisations et sur toutes les disciplines autant d'informations que possible, je pourrais être modestement ce wen, pratiquer le wen du troisième genre, celui qui est le résultat d'un travail constant sur soi et sur le savoir humain.
Je crois que le jeûne, on peut déjà commencer à le cerner en étudiant un petit peu la graphie du mot chinois, qui est composé du radical de l'homme, auquel on adjoint le signe qui veut dire « deux ». Alors, autrement dit, le jeûne, ça place d'emblée l'homme dans sa relation avec autrui. C'est à la fois ce que représente l'homme dans son idéal, dans ce qu'il a de meilleur, mais dans ce qu'il a de meilleur en particulier par rapport à autrui. Et c'est un idéal avec un grand I, c'est vraiment l'idéal de l'idéal, si vous voulez. Hein. C'est si élevé qu'effectivement Confucius reconnaît l'accomplissement du jeûne à très peu de gens, sinon à personne. Hein. Même aux sages souverains de l'Antiquité, alors ce qui place le jeûne même au-dessus du mythe. Mais c'est que Confucius, justement, conçoit le jeûne comme une dimension ouverte. C'est-à-dire qu'on n'atteint jamais le jeûne, mais on y tend toujours. Dans la mesure où le jeûne n'est pas quelque chose de défini. Ce n'est pas un idéal défini ou un impératif catégorique. C'est quelque chose qui vous aspire toujours vers le haut.
Le maître dit... La voie de l'homme de bien consiste en trois choses, dont je suis encore incapable. Le jeûne, qui chasse toute inquiétude. La sagesse, qui dissipe toute incertitude. Et la bravoure, qui libère de toute crainte. Ce qu'on dit, ne reconnaît-on pas là le maître lui-même ?
Vivre libre de toute volonté de puissance, de toute vantardise, rancune et convoitise, est-ce atteindre le jeûne ?
Le maître dit, c'est déjà là chose difficile, mais peut-on parler de jeûne ? Je ne sais.
Chaque fois qu'on se donne un aspect du jeûne qui est différent selon l'interlocuteur. Mais dans un des passages, il répond, le jeûne, c'est à la fois le jong et le chou.
Charles Leblanc.
Jong est un concept qu'on retrouve dans les textes beaucoup plus anciens en Chine, qui veut dire fidélité. Et c'est un caractère fort intéressant qui est composé du caractère qui veut dire centre, et du caractère qui veut dire cœur. Et on peut dire que la graphie elle-même, qui a une dimension surtout verticale à cause du caractère centre, indique l'axe de la profondeur humaine. Hein, que le jeûne a une dimension verticale, dans le sens que c'est une possibilité pour l'homme d'approfondir son être, d'aller plus profondément dans son affectivité. Jusqu'à ses sources, si l'on veut. On peut supposer que Confucius, lorsqu'il parle du jung, se réfère aussi à cette source de l'affectivité humaine qui est bonne en elle-même, qui n'est pas agressive, qui n'est pas violente, qui ne veut pas enlever à l'autre son droit, et ainsi de suite. Qui est une disposition de don, pour ainsi dire, hein, qu'on est ouvert à l'autre. L'autre dimension du jeûne, c'est le chou, et encore là, la graphie elle-même, on dirait, symbolise ou suggère en tout cas une dimension plutôt horizontale, hein, de mansuétude, de bons sentiments, et ainsi de suite. Alors, ces deux dimensions, comme je le disais, sont dans un rapport dialectique, dans le sens que plus on s'approfondit soi-même du point de vue de son affectivité, plus on va aux sources de l'amitié, de l'amour, plus on peut étendre son affectivité à des cercles de plus en plus grands. Et plus aussi on a des rapports affectifs réels, authentiques avec les gens, plus ça nous conduit aux sources de notre affectivité.
second. Ce que je n'aimerais pas que les autres me fassent, pour rien au monde, je ne voudrais le faire aux autres.
Le maître. Eh bien, mon ami, tu n'y es pas encore.
Second. Y a-t-il un mot qui puisse guider l'action toute une vie durant?
Le maître. Mansuétude. N'est-ce pas le maître mot? Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne l'inflige pas aux autres.
Alors souvent, et c'est intéressant, le chou, la mansuétude, est présenté selon une approche négative. N'inflige pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fissent subir. Alors qu'en dites-vous, Charles Leblanc?
Mais vous savez, si on y réfléchit un peu, mettre ce précepte dans la forme négative est beaucoup plus fort que de le mettre dans la forme positive. Parce que la négation est toujours infinie, hein? Alors que l'affirmation est toujours définie, limitée, hein? Alors, lorsqu'on dit « ne jamais faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse », c'est beaucoup plus large comme ampleur que si l'on dit « il faut faire aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse ».
Oui, mais je voudrais quand même citer un passage des entretiens où on a quand même l'envers de la négation, hein, c'est-à-dire que le jeûne, et par la même occasion le chaud, hein, cette mansuétude est définie de façon plus positive. Et dans cette citation, justement, on verra bien que le propos de Monsieur Leblanc se trouve parfaitement illustré, c'est-à-dire que on verra que c'est en creusant en soi-même, hein, selon cet axe vertical défini par le Chong, hein, cette espèce de fidélité à soi-même, en creusant en soi-même que l'on pourra étendre sa bienveillance à autrui, selon cet axe horizontal de la mansuétude. Cette citation dit ceci: « Pratiquer le jeûne, c'est commencer par soi-même. Vouloir établir les autres autant qu'on veut s'établir soi-même et souhaiter leur réussite autant qu'on souhaite la sienne propre. Puise en toi l'idée de ce que tu veux faire pour les autres. Voilà qui te mettra sur la voie du jeûne. »
Qu'est-ce que le jeûne? Yan Hui pose la question au maître qui lui répond.
L'homme de jeûne est celui qui fait l'effort sur lui-même pour revenir au rituel. Quiconque s'en montrerait capable, ne serait-ce qu'une journée, verrait le peuple entier honorer son jeûne. N'est-ce pas de soi-même et non des autres qu'il faut en attendre l'accomplissement?
Yan Hui. Pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre?
Le maître. Ce qui est contraire au rituel ne le regarde pas, ne l'écoute pas. Ce qui est contraire au rituel n'en parle pas. Et à plus forte raison, n'y commet pas tes actions.
Yan Hui, je ne suis guère intelligent, mais je ferai de mon mieux pour appliquer ce précepte.
Confucius ne dédaignait pas de violer les rites quand cela lui paraissait indispensable. Les rites, la politesse, cela est important, et en effet, c'est utile, étant donné la bestialité de l'espèce humaine, mais ce n'est pas l'essentiel. Il est certain que dans la dogmatique qui se réclame de Confucius, il y a une servitude des parents aux enfants. Il y a une servitude ensuite de la femme, notamment, à ses beaux-parents, à ses belles-sœurs, à toute la parentèle. Mais, de fait, la piété filiale a été portée jusqu'à certains excès monstrueux, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec le seul texte confucéen que l'on doit prendre en considération, à savoir les entretiens familiers. Ce sont des conséquences de la déification et de la mythification, en tout cas, de Maître Kong, très tôt après sa mort. Depuis que, sous la dynastie des Han, le confucianisme est devenu en quelque sorte une doctrine officielle avec des variantes allant jusqu'à des examens de lettrés accomplis, etc., le rituel l'a évidemment, dans les mœurs, emporté sur la vertu et sur le Wen. Mais c'était d'autant plus sensible que les femmes en pâtissaient plus encore que les hommes. Par exemple, elles étaient soumises aux trois obéissances. L'obéissance au père, tout d'abord, bien entendu, jusqu'au mariage. Ensuite, et immédiatement et sans délai, l'obéissance au mari. Et, si le mari mourait, obéissance absolue et sans réserve au fils aîné. Donc, la femme était un animal obéissant. Bon. En outre, elle devait disposer de quatre vertus. Premièrement, accomplir tous les devoirs exigés par le rituel envers ses beaux-parents et qu'il emportait sur ses parents. Ensuite, le respect absolu de son époux. Ce n'est pas seulement l'obéissance, là, c'est le respect. Ensuite, elle devait être au mieux avec ses belles-sœurs. Enfin, elle devait avoir des rapports de bon voisinage avec tout le monde. Voilà quelles étaient les obligations de la femme. Naturellement, quand on connaît l'histoire vraie de la vie des femmes en Chine depuis 4000 ans et plus que la civilisation chinoise existe, on s'aperçoit qu'heureusement pour elles, il n'en fut pas toujours ainsi, qu'il y eut des femmes libres, qu'il y eut des femmes libertines. J'ai même écrit tout un traité Yun Yu sur l'érotisme chinois, et il n'est pas toujours conforme aux trois obéissances et aux quatre vertus. Il y a une savante érotique chinoise et les femmes y prenaient la part qui leur revient. J'ai toujours regretté que Maître Kong, victime de son époque, mais après tout on pense avec son temps, selon son temps, n'ait pas su donner à la femme toujours, et même presque jamais su donner à la femme, le statut qui devait être le sien.
Alors ces quatre concepts, celui de gêne, bienveillance, de yi, sens de la justice, fuet, l'étude, et li, rite, devaient conduire à l'épanouissement de l'être humain dans sa totalité, et cet être humain qui avait atteint ce degré de perfection s'appelait le junzi, qu'on peut traduire littéralement par « fils de noble », mais qu'on traduit ordinairement dans un sens plus moral, avec justesse, je pense, par « homme de bien ». Alors, ces vertus conduisaient à l'épanouissement de l'homme de bien.
Cet idéal du Junzi, qui veut dire littéralement fils de souverain, hein, Junzi, hein, c'est le fils de souverain, qui avait à l'origine, si vous voulez, une connotation sociale. Hein, les Junzi étaient, si vous voulez, la classe noble. Mais dans le vocabulaire confucéen, ça devient une notion essentiellement éthique. Mais ça garde quand même justement cette connotation de noblesse. C'est-à-dire que le junzi doit être, si vous voulez, un homme noble. Mais bien sûr au sens non plus tellement social, si vous voulez. Dans le vocabulaire confucéen, le Tunzi n'est pas un homme noble de naissance, mais un homme noble de par justement l'apprentissage qu'il a fait du jeune. L'homme est un être qui est capable justement de tendre toujours vers quelque chose de plus haut que lui, de plus grand que lui, qui est toujours tendu vers l'ouvert, hein, plutôt que vers le transcendant ou le divin. Le confucianisme n'est pas véritablement une religion, mais on ne peut pas dire non plus que Confucius ait tracé une croix définitivement sur la dimension céleste. Au contraire, hein, je crois que l'homme, c'est quelque chose qui est toujours branché, si on peut dire, sur le ciel, hein, qui est toujours en communication directe avec le ciel, qui doit toujours tendre vers cette dimension céleste qu'il porte en lui.
与其其家者，先修其身；与修其身者，先正其心；与正其心者，先成其意；与成其意者，先治其知；治之在格物。物格而后知治，知之而后意成；意成而后心正。
Le maître dit, c'est le ciel qui a fait naître en moi la force de la vertu. Que peut sur moi un Juan Trui? Confucius dit, l'homme de bien a respect pour trois choses, les décrets du ciel, les hommes éminents, et les paroles d'un sage. L'homme de peu ne craint pas la volonté céleste pour la simple raison qu'il ne la connaît pas. Prend des libertés avec les grands et tourne en dérision les paroles du sage.
Il y a en effet le mot tien qui est un des mots les plus difficiles de la pensée chinoise et au tianming, c'est-à-dire le décret du ciel, n'est-ce pas? Mais nous dirions aussi bien, et j'en ai parlé avec divers sinologues, que cela signifie à la fois la fatalité cosmique et en même temps, comment dirait-on, eh bien, ce qui est le contraire de la fatalité, c'est-à-dire la contingence. Il y a dans la notion de Tianming à la fois une idée d'une fatalité, mais aussi une ouverture sur la contingence. Le monde est fait de certains accidents fatals, mais aussi de contingence.
La grande question, vous parlez vous-même de ceux qui l'ont posé, en particulier Creel, Confucius était-il agnostique? Vous-même, vous expliquez qu'il reprenait bien entendu tout ce qu'il y avait dans l'air du temps, tout en, je vous cite, le laïcisant fortement.
C'est en effet une des questions très difficiles touchant le confucianisme que de savoir si Confucius était ou non véritablement agnostique. Quand il parlait des esprits, ce qui était très rare, il ne parlait pas de ce qu'on appelle les fen ou les kuai, les esprits bons ou mauvais. Il n'en parlait pas. Il les tenait à distance. L'expression que moi je traduis « tenir à distance », d'autres la traduisent autrement. Mon ami Hurley Glesner-Creel doutait que Confucius fût agnostique, mais dans la grande querelle qui s'est toujours posée à ce sujet, un assez grand nombre de critiques et de sinologues experts ont reconnu implicitement, sinon explicitement, en Confucius un agnostique. Jamais il ne parlait de la transcendance, jamais il ne s'égarait en considération sur les fantômes, sur les houbis, comme on disait dans mon enfance, dans la Mayenne. C'était un homme qui pensait, il faut bien le dire, sinon rationalistement, du moins rationnellement, ou du moins raisonnablement.
Le maître ne parlait jamais de l'étrange, ni des esprits, de la force brute, ni des actes contre nature. Tselo demande comment il convient de servir les esprits. Le maître lui dit : tant que l'on ne sait pas servir les hommes, comment peut-on servir leur mal ? Tselo l'interroge alors sur la mort. Le maître répond : tant que l'on ne sait pas ce qu'est la vie, comment peut-on savoir ce qu'est la mort ?
Je voudrais en venir à cette notion du gouvernement. Comment Confucius l'entendait-il ? Parce que beaucoup de gens, ça fait partie des mythes, on dit qu'en gros Confucius légitimait la mainmise des féodaux, entre guillemets, sur le peuple, etc. Or, vous-même, vous êtes un de ceux qui tenaient le plus à dire que pour Confucius, l'art de gouverner, c'était pas, en gros, l'art de manier la schlag, enfin.
C'est le contraire même, n'est-ce pas ? Pour Confucius, l'art de gouverner, ce n'était nullement ni la terreur, ni même la violence, puisque le premier devoir du lettré confucéen, ou simplement du confucéen digne de ce nom, c'est de se lever chaque fois que le prince se trompe en politique ou en économie, et d'aller lui dire « Sire, vous vous trompez », généralement on lui coupait la tête. Bon, eh bien il y a même une légende qui veut que le vrai confucéen prenait son cercueil sous son bras. Quand il allait dire au prince « Prince, vous vous trompez », on lui coupait la tête. Un deuxième s'amenait avec son deuxième cercueil, on lui coupait la tête. Puis au troisième, le prince, ou au quatrième, il pouvait arriver que le prince s'inquiéta et se dit « Mais enfin, si tant de gens me disent que je me trompe et acceptent de mourir parce que je me trompe, c'est peut-être moi qui me trompe, en effet ».
Le maître dit: l'adepte résolu de la voie, l'homme de gêne véritable, loin de tenir à la vie s'il en coûte au gêne, la sacrifierait au besoin pour que vive le gêne.
Par conséquent, vous voyez qu'on aurait tout à fait tort de voir en Maître Kong un valet des puissants. Il a toujours été au contraire de ceux qui ont le plus fermement dit « L'homme de qualité est celui qui dit au prince qu'il se trompe ». Thank you.
Shikansu, qu'est-ce que gouverner?
Confucius. Gouverner, c'est redresser le gouvernail. Si vous le tenez droit et ferme, quel est celui qui osera dévier? Le maître dit, l'homme formé à la rectitude, quelle difficulté aura-t-il à gouverner? Quant à l'homme incapable de rectitude, comment prétendrait-il rectifier les autres? Le maître dit, le souverain incarne-t-il la rectitude? Nul n'est besoin de ses ordres pour que tout aille bien. Ne l'incarne-t-il pas? Il multiplierait les ordres qu'il ne serait point obéi.
Pour lui, gouverner, comme il le dit lui-même, là aussi, il joue volontiers sur les mots, ou plutôt sur le caractère chinois, qui comporte justement l'élément qui veut dire rectitude. Et il dit justement, gouverner, c'est rendre droit, rendre rectifier, faire que les choses reviennent à la droiture, à la rectitude. Et en cela, on ne peut pas vraiment justement imaginer un souverain confucéen qui manierait la chla, comme vous venez de le dire, puisque lui-même doit être le premier à montrer l'exemple. Les entretiens y reviennent constamment sur ce thème, c'est-à-dire que bon, il suffit que le souverain soit lui-même dans la voie droite, dans la rectitude, qu'il incarne cette fameuse rectitude pour que les sujets d'eux-mêmes suivent le mouvement, hein, c'est-à-dire se mettent d'eux-mêmes dans la position droite. Et c'est là que, justement, on peut montrer que le rituel, hein, le fameux li dont Confucius parle toujours, s'applique à la fois, si vous voulez, à l'accomplissement de l'homme au niveau individuel, que à l'accomplissement de la parfaite harmonie au plan social, au plan communautaire. Hein, c'est là qu'on voit, justement, ce rôle absolument universel joué par le rituel. C'est-à-dire qu'il suffit que le souverain se replace lui-même dans une attitude parfaitement rituelle pour que ses sujets, d'eux-mêmes, de façon naturelle, je dirais, se replacent aussi dans cette voie.
Le maître dit, faute de se régler sur le rituel, la politesse devient laborieuse, la prudence timorée, l'audace rebelle, la droiture intolérante. Que les gouvernants montrent l'exemple de la sollicitude envers leur famille, le peuple tendra naturellement vers le jeune. Qu'il montre l'exemple de la fidélité aux vieilles connaissances, le peuple ne sera jamais cynique. Le maître dit, pourvu que les gouvernants s'attachent au rituel, le peuple sera facile à gouverner.
Je voudrais vous citer un passage des entretiens où un disciple vient demander au maître qu'est-ce que gouverner. Alors ça, bien sûr, c'est une question qui revient très souvent dans la bouche des disciples qui, rappelons-le, se destinent pour la plupart à assumer un rôle dans le gouvernement. Alors le maître dit, c'est veiller à ce que le peuple ait assez de vivres, assez d'armes et s'assurer sa confiance. Alors là, on a justement un ordre de priorité sur lequel le disciple revient. Il dit, s'il fallait se passer d'une de ces trois choses, laquelle serait-ce? Et le maître répond, les armes. Et des deux autres, laquelle serait-ce? Et le maître répond, les vivres. Car de tout temps, les hommes sont sujets à la mort. Mais sans la confiance du peuple, aucun État ne saurait tenir.
Le duc Qing de Qi interroge Confucius sur l'art de gouverner.
Confucius lui répond « Que le souverain agisse en souverain, le ministre en ministre, le père en père et le fils en fils. »
Le duc « Comme c'est juste. Ainsi, dans un pays où le souverain n'agit pas en souverain, le ministre en ministre, le père en père et le fils en fils, les greniers seraient pleins qu'on n'aurait pas l'assurance d'en jouir, je présume. »
Vous m'aviez dit, Antoine Perrault, que ce qui vous avait beaucoup étonné, c'est de voir que à tout un paragraphe en traduction française correspondait juste quelques caractères chinois. Et là, vous allez voir que cette phrase, que le souverain agisse en souverain, le ministre en ministre, le père en père et le fils en fils, correspond la formule chinoise jun jun chen chen fu fu zi zi. Voilà. Dans cette formule, on voit à la fois justement ce sens de la hiérarchie qui est bien sûr typique de la civilisation chinoise, c'est un trait bien connu, qui est facteur bien sûr d'harmonie, hein, puisque chacun accepte justement pleinement de rester à sa place et de jouer pleinement son rôle. Mais en même temps, on y voit bien sûr les limites de l'enseignement de Confucius, puisque l'harmonie sociale se paye bien sûr par une énorme contrainte sur l'individu. Hein. Et c'est bien sûr comme ça qu'on peut expliquer en partie tous les soubresauts de l'histoire chinoise moderne. Hein. Et encore à l'heure actuelle, on a justement ce double aspect, c'est-à-dire que la société chinoise est à la fois une société où chacun est très concerné justement par le destin d'autrui, on s'entraide, enfin c'est une société de solidarité mutuelle, hein, on ne reste jamais seul, mais en même temps où il y a une énorme pression et d'énormes contraintes exercées par le groupe social sur l'individu.
Il reste dans Confucius beaucoup de choses à prendre parce qu'il vivait dans une époque de confusion, d'horreur et de terreur, et que nous vivons nous aussi dans une confusion d'horreur, de terreur, et que par conséquent nous devons reprendre sa pensée fondamentale, à savoir que tout doit commencer dans une société par la morale, parce que la morale suppose la justice. Et à plus d'une reprise, justement, Confucius fait bien savoir que la morale a pour fin suprême de donner aux pauvres de quoi vivre, d'empêcher que les riches ne s'enrichissent aux dépens des pauvres. Et c'est à lui qu'on a reproché même d'avoir un jour ouvert les greniers d'abondance, un jour de disette où les gens crevaient de faim. Lui s'est dit, puisque les gens crèvent de faim, il faut que je leur donne à manger. Et il a, dans sa fable en tout cas, ouvert les greniers d'abondance et distribué gratuitement les céréales, faute de quoi le peuple chinois allait mourir de faim. Donc, la morale, c'est la justice sociale, c'est l'équité. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'était pas, ce qui est pour moi le troisième élément de la Trinité, de ma Trinité, que ce n'était pas la liberté. Liberté, morale, justice sociale, pour moi, ce sont mes trois raisons de vivre publiquement, je veux dire. Dans la vie privée, il s'agit d'autre chose. Mais dans la vie publique, je n'en doute pas loin du monde.
duc Ding. Est-il une et une seule phrase qui puisse faire la grandeur d'un pays?
Confucius. Une simple phrase ne saurait avoir ce pouvoir. On dit pourtant, être souverain est difficile. Être ministre n'est pas facile. Le souverain qui aurait compris la difficulté de sa tâche ne serait-il pas prêt de faire en une phrase la grandeur de son pays?
Le duc Ding. Est-il une et une seule phrase qui puisse faire la ruine d'un pays?
Confucius. Une simple phrase ne saurait avoir ce pouvoir. On dit pourtant, je n'ai aucun plaisir à être prince si ce n'est que personne n'ose me contredire. Dans le cas où les édits du prince sont sages, ne faut-il pas se féliciter que personne ne s'y oppose? Mais dans le cas contraire, le souverain qui se donnerait pareille définition ne serait-il pas prêt de faire en une phrase la ruine du pays?
Le chef du clan Qi est plus riche que ne le fut jamais le duc de Chou. Et pourtant, Zhan Qiu s'emploie à lever et engranger les impôts pour lui, ne faisant ainsi qu'ajouter à sa fortune.
Le maître dit, il n'est plus mon disciple. Mes amis, battez le tambour, dénoncez-le publiquement. Je suis avec vous.
Si mes souvenirs sont bons, mais je ne sais malheureusement plus par cœur le Lunyu, on ne trouvera pas dans les entretiens de Confucius explicitement formulé le droit pour le peuple de se rebeller contre un souverain injuste. C'est aux lettrés, c'est aux confucéens, aux Tunzi, à l'homme de qualité qu'il importe de faire comprendre au prince que le prince gouverne mal, et de le ramener dans le droit chemin de la justice et de l'équité sociale. Ça, il ne faut pas, en effet, faire de Confucius un maolâtre ou un maoïste avant la lettre. Il y a un homme comme Han Yu, le célèbre Han Yu, lettré confucéen sous les Tang, lorsque le bouddhisme abusait de son pouvoir. Et lorsqu'un empereur osa aller vénérer les reliques du Bouddha, Han Yu lui envoya par la figure un mémoire d'une violence admirable littérairement, mais politiquement si intense qu'il fut condamné à mort, gracié du reste, exilé enfin, puis réhabilité et ramené à la cour. Mais vous voyez que le lettré confucéen est capable de faire des actes de révolte absolue sans que pour autant il soit admis que le peuple puisse prendre les armes spontanément. Cela n'empêche pas que dans toute l'histoire de la Chine, on trouve à foison des révoltes populaires et notamment ce que nous appellerions des jacqueries. Parce que dans les grands moments de famine ou d'injustice sociale, eh bien, confucianisme ou non, les gens s'en fichaient. Vous comprenez, ils ne s'occupaient pas de Confucius, ils ne le connaissaient pas. Et quand ça allait très mal, il arrivait que spontanément, le peuple se révolta. Ce n'était pas au nom de la lettre du confucianisme, mais puisque la morale de Confucius supposait que le bon prince donne à manger aux pauvres, quand les pauvres n'ont pas à manger et qu'ils se révoltent contre le prince et qu'ils font des jacqueries féroces au besoin, eh bien, j'estime que là, au fond, ils sont, sans le savoir, des confucéens.
天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可虚于离也，可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。
Ce que le ciel impartit à l'homme s'appelle nature. Rester dans le sens de la nature s'appelle voie. Cultiver la voie s'appelle éducation. La voie ne saurait se séparer de nous un seul instant. Dès lors qu'il y a séparation, ce n'est plus la voie. Aussi l'homme de bien est-il en alerte, même quand il ne voit rien, sur le qui-vive, même quand il n'entend rien. Il n'est rien de plus visible que ce qui est caché, rien de plus évident que ce qui est suggéré. Aussi l'homme de bien veille-t-il avec soin sur ce que lui seul connaît. Quand l'allégresse, la colère, la tristesse et la joie ne se sont pas encore manifestées, c'est le juste milieu. Quand elles se manifestent sans dépasser la mesure, c'est l'harmonie. Le juste milieu est le fondement de l'univers. L'harmonie en est la voie universelle. Lorsque le juste milieu et l'harmonie atteignent leur plus haut degré, le ciel et la terre se mettent en bonne place. Les 10 000 êtres trouvent la prospérité. Confucius dit : l'homme de bien reste dans l'invariable milieu. L'homme de peu s'en écarte. Le juste milieu de l'homme de bien est invariable, du fait même qu'il est homme de bien. Le juste milieu de l'homme de peu est fait d'indifférence, du fait même qu'il est homme de peu. Le maître dit : l'invariable milieu dans sa perfection, peu d'hommes sont capables de s'y maintenir durablement. Le maître dit : que la voie ne soit pas pratiquée, je ne le sais que trop. Les hommes intelligents vont au-delà, les hommes stupides ne vont pas jusque-là. Les hommes de valeur la dépassent, les hommes de rien ne l'atteignent jamais. Nul ne peut vivre sans boire ni manger, mais rare est-il celui qui connaît la vraie saveur. Début de l'invariable milieu.
Parmi ce qu'on appelle les classiques confucéens, il y en a deux. Celui qu'on appelle en français la grande étude, le Taisho, et l'invariable milieu, ou le juste milieu, ou le milieu juste, qui sont simplement des fragments extraits du mémorial des rites avec les commentaires du confucéo-bouddhisant Tsu-shi du Moyen-Âge chinois. Mais il faut savoir que ce ne sont pas des textes proprement confucéens, qu'ils ont été écrits par des confucéens bouddhisants, et que Confucius n'est pour rien là-dedans.
En effet, une fois Confucius disparu, restait à transmettre le confucianisme, quitte à le réinventer pour l'imposer face à l'hostilité d'autres tendances, taoïstes, légistes et moïstes en particulier. C'est Mencius, au IVe siècle avant l'ère chrétienne, qui élabora la pensée confucéenne en doctrine systématique, y ajoutant de nouveaux concepts. Les ennuis ne faisaient que commencer pour cette philosophie déjà passablement déformée, puisqu'en 135 avant Jésus-Christ, sous la dynastie des Han, elle fut consacrée religion officielle.
On a dit que Confucius était le fondateur d'une religion, ce qui est complètement imbécile. Que l'on dise qu'à partir de Confucius, il y a des gens qui ont voulu fonder une religion avec un clergé, en l'espèce les mandarins pourris, comme beaucoup de clergés pourris, C'est vrai, mais ce n'est pas Confucius qui a fondé une religion. Ce sont des gens qui, usurpant son nom, se sont ingéniés à fausser sa pensée pour obtenir tout le pouvoir spirituel temporel et exercer la tyrannie. C'est l'histoire, hélas, de toutes les religions, quasiment, que je connais.
Et l'héritage devait s'alourdir. Cette pensée, désormais destinée à faire office d'orthodoxie d'État, fut donc ensuite matinée de bouddhisme pour aboutir au néo-confucianisme mis en place au XIIe siècle sous les Song. C'est ce confucianisme, terriblement revu et corrigé, que les jésuites livrèrent en pâture à l'Europe des Lumières, qui en fit ses délices. Voltaire, par exemple, aimait à s'incliner dans son oratoire devant un portrait de Maître Kong sous lequel s'inscrivait ce quatrain « De la seule raison salutaire interprète, sans éblouir le monde éclairant les esprits, il ne parla qu'en sage et jamais en prophète, cependant on le crut, et même en son pays. » Plus tard, Mao Zedong n'en trouva pas moins l'eau du bain fort trouble et fut tenté d'en incriminer le bébé soi-même.
Lorsque s'installa en Chine la religion maolâtre qui se prétendait déduite du marxisme, son premier ennemi fut Confucius. Dans certains traités théoriques, Mao cite en effet constamment Marx, Engels et les saints-pères de la nouvelle religion. Mais un érudit slovaque qui travaille beaucoup sur la culture chinoise et qui est un comparatiste très savant m'a fait remarquer que lorsque l'on considère l'ensemble de l'œuvre de Mao, il y a beaucoup plus de références à Confucius qu'il n'y en a au maître du marxisme, ce qui prouve bien qu'il était imprégné lui-même de sa propre culture nationale. Et d'ailleurs, dans un des beaux poèmes, car Mao a été un abominable tyran, surtout à cause de sa putain d'épouse, mais Mao était un grand poète chinois. Eh bien, dans l'un de ses poèmes qui s'appelle « La nage », il dit « Le maître l'a bien dit sur les bords d'un cours d'eau » et c'est l'histoire de l'eau qui coule et qui progresse.
Un jour qu'il se trouve au bord du fleuve, le maître dit « Tout passe comme cette eau. Rien ne s'arrête, ni jour ni nuit. »
Le maître l'a bien dit sur le bord d'un cours d'eau et ça, c'est en effet un fragment tiré des entretiens familiers de Confucius. Donc il appelait, lui, à ce moment-là, mais il n'avait pas publié ces poèmes-là. Ce n'est que plus tard qu'on les a sortis. Mais il est paradoxal de penser que celui qui a le plus violemment persécuté Confucius, le confucianisme et les confucéens, appelait Confucius le maître. Cela dit, on a donc massacré la pensée confucéenne, calomnié Confucius, tout pendant la période notamment des Saturnales de la Révolution culturelle. Puis, Confucius a été réhabilité depuis 1980 jusqu'à 1986, depuis donc que l'on a réédité le Lunyu, que l'on vient cette année de consacrer à Maître Kong une revue spécialisée, on peut dire que tout a changé en Chine et que maintenant les discussions ne cessent de se multiplier pour examiner le pour et le contre de sa doctrine. Alors, je suis extrêmement heureux de voir depuis 5 ans la Chine redevenir ce que je crois qu'elle est, le pays le plus cultivé de la planète, La seule civilisation qui a près de 5000 ans, bon, il y a la grecque, mais elle se laisse contaminer par l'américanisation. Elle est entièrement asservie, plus que nous-mêmes encore, à l'américanisation. Alors il ne reste que la Chine. Certes, la Chine subit l'anglais, l'américain, et beaucoup de sommaires des revues chinoises maintenant sont publiés en anglais et en américain. Mais les Chinois, premièrement, sont plus d'un milliard. Deuxièmement, ont 5000 ans de civilisation. Troisièmement, ont une philosophie, une poésie, une littérature générale, des romans parmi les plus beaux du monde, incontestablement. Ils ont tout. Il ne leur manque aucun genre littéraire. Ils ont des pastourelles et des mayanarelles, comme nous. Alors, si un milliard d'hommes et plus, à condition qu'ils n'augmentent pas trop, ça ils le savent au moins, qui ont 5000 ans de civilisation derrière eux, ne peuvent pas sauver la planète en se réclamant à la fois de celui qui leur a donné l'idée que la politique se fonde sur la morale Confucius et en s'ouvrant enfin au monde comme ils le font maintenant par la littérature comparée, si la Chine ne réussit pas à s'imposer au monde pour corriger ce duel atroce et imbécile entre l'impérialisme russe et l'impérialisme américain, alors nous sommes foutus. Moi, tout mon espoir actuellement, je le mets dans Confucius et le renouveau de la littérature comparée en Chine.
Une vie, une œuvre. Confucius, l'instituteur de l'Empire du Milieu, par Antoine Perrault. Avec la participation de Anne Cheng, chargée de recherche au CNRS, René Étiamble, professeur honoraire en Sorbonne, Charles Leblanc, professeur à l'Université de Montréal. Les voix de Yin Desang, Jean Menot, Daniel Tarrar. Les entretiens de Confucius sont parus au Seuil, collection Point Sagesse, dans la traduction d'Anne Cheng. Le Confucius d'Étiamble vient d'être réédité chez Gallimard, enrichi d'un chapitre analysant la réhabilitation du vieux maître entre 1980 et 1986 dans la Chine de Deng Xiaoping. Collaboration technique, Philippe Bouillette, Marc Duchesne. Réalisation, Isabelle Huel.
Le maître dit, qui le matin entend parler de la voix, peut mourir content le soir même.